Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Podcast Factory.
Bonjour à toi, bienvenue parmi nous pour ce second épisode de Yes, le podcast de Warrior. On se retrouve tous les mois pour célébrer les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et avec moi il y a toujours ma formidable équipe. Salut Elsa.
Salut Anaïs.
Salut Margaïde.
Hello Anaïs, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Oui, impec.
Vous avez été très nombreuses et nombreux à écouter notre premier épisode et on vous en remercie. Vous nous avez aussi fait de nombreux retours et on a été très émus de constater que l'écoute du podcast vous a donné la pêche. On a du coup décidé de citer quelques-unes d'entre vous pour commencer ce nouvel épisode sur des mots qui réchauffent.
On a notamment reçu sur iTunes un témoignage d'Amandine qui nous dit « Je viens de finir d'écouter votre premier épisode sur le harcèlement de rue. J'aurais eu tellement d'anecdotes à partager avec vous. Je me suis reconnue dans le témoignage de beaucoup d'entre elles. Votre podcast est formidable, il m'a regonflée à bloc, on se sent plus seule et on se sent plus forte. Ces filles qui ont témoigné sont de vraies warriors. » Eh ben, merci beaucoup Amandine, ça nous fait vraiment 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 plaisir. C'est exactement pour ça qu'on le fait, donc si ça provoque ce genre de sentiment, bah, c'est qu'on a tout gagné.
Ouais, en plus elle finit son message avec un point levé comme ça là, en mode conquérante. Et il y a aussi Elodie qui nous a écrit sur Instagram. J'étais justement en train d'écouter le podcast dans le train, en allant pour descendre, les gars à côté de moi commencent à me parler. Si j'habite dans la ville de l'arrêt, si j'ai un copain, qu'avec mes lunettes j'ai une bonne tête de suceuse. Et alors que j'aurais tracé sans rien dire avant, votre podcast m'a redonné du courage pour répliquer alors que je bégaye. Donc humiliation en plus quand tu essayes de te défendre normalement. Merci vraiment pour votre travail.
C'est super de voir que ça donne de la force parce que c'est exactement pour ça qu'on le fait. Nous, ça nous inspire, donc de constater dans vos commentaires que ça vous inspire, c'est hyper gratifiant pour nous et ça nous donne encore plus envie de continuer. Donc vous, de votre côté, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur iTunes pour nous dire ce que vous pensez du podcast, mais aussi pour nous suggérer des thématiques pour les prochains épisodes. Dans ce second épisode, on va donc parler de sexisme au travail. On a reçu des témoignages de femmes qui ont résisté, qui se sont défendues, qui ont réussi à se faire respecter et qui se sont imposées avec talent. C'est un thème complexe, déjà parce que c'est pas évident de témoigner quand on est toujours en poste dans la boîte concernée, et parce que ça traite de dizaines de sous-sujets. Donc on a évidemment pas pu être exhaustive, mais en tout cas on va te présenter 6 warriors qui dépotent.
Ouais, dépotent. Ça c'est le mot, hein.
Et on va commencer avec le témoignage de Agnès, qui a 59 ans, qui nous a raconté en fait 3 histoires. Là, on en a choisi une. Et après, elle nous a envoyé aussi un petit mot de soutien pour toutes les warriors qui nous écoutent.
Je m'appelle Agnès, j'ai 59 ans. J'ai 40 ans de vie professionnelle derrière moi, donc ce n'est pas parce que je suis une super warrior que j'ai 3 expériences à raconter. C'est juste que j'ai eu à subir quand même assez souvent des situations plus qu'embarrassantes et surtout un sexisme ordinaire quotidien. La première expérience, j'ai 19 ans. Je viens de commencer à travailler. Je suis dans une agence immobilière où il y a un patron, une personne qui vient de temps en temps et je suis ce qu'on appelait à l'époque secrétaire et ce qu'on appelle maintenant assistante. Je travaille dans cette agence immobilière, le sexisme ordinaire est particulièrement virulent, mais bon, il y a 40 ans, ça faisait partie des règles du jeu. Je suis au téléphone avec un client Au bout d'un mois, je suis au téléphone avec un client et le patron arrive par derrière et commence à me ploter les seins. Ma réaction a été tripale. J'avais une règle en fer devant moi, je l'ai prise et je lui en ai donné un coup. J'ai jamais regretté. J'ai été bien évidemment virée tout de suite, avec perte et fracas, mais je n'ai jamais regretté ma décision. S'il y a une seule règle, c'est les situations, les propos sexistes, etc. Bon, on peut ne pas forcément réagir, mais alors me ploter, me toucher, ça c'est niette. 9h.
Never.
J'adore. Never.
Never.
T'as
tu
compris?
Me touches.
Hamas. Garde la pêche. Donc, bah ouais, enfin là, vraiment, elle a été super, super forte. Mais bon, évidemment, elle s'est fait virer. Hein, donc, faut pas rêver. Et comme elle dit, à l'époque, c'était vraiment normal, quoi. C'était pas du tout. Enfin, si le mec s'est permis de faire ça, c'est que pour lui, c'était vraiment pas un truc de ouf, quoi.
Ouais, ouais mais quoi. Ça a l'air, enfin, même aujourd'hui encore, hein, des mecs comme ça, on en retrouve dans les boîtes, hein, des vieux libidineux comme ça, malheureusement.
Même jeunes libidineux.
Aussi, ouais, jeunes, pourquoi vieux, forcément. Non, les libidineux sont aussi jeunes aussi, ouais.
Donc,
ouais.
Action, réaction, voilà, un plotage, un coup de règle. Voilà. Ça lui apprendra, en tout cas, même si elle a été virée, je pense que lui se rappellera de sa réaction.
Bravo, Agnès.
J'espère en tout cas qu'il a réfléchi.
Et à 19 ans en plus, hein. Je précise. On va écouter quand même son message pour les Warriors. C'est la deuxième partie.
Allez, Magnéto, Agnès.
Alors, je m'appelle toujours Agnès, j'ai toujours 59 ans. Et comme je suis un peu une ancienne combattante, l'équipe m'avait demandé quels seraient mes conseils pour des Warriors qui arrivent sur le marché du travail. Moi, j'ai pas de conseils, hein, parce que je suis pas une référence. Je pense juste que ça peut être difficile de ne rien lâcher tout le temps quand on est isolé, y compris au milieu de Nana. Je pense que c'est comme on le sent et comme on se sent aussi. On n'a malheureusement pas toujours la répartie qui va bien au bon moment. Donc mon conseil, ça serait plutôt de ne pas se culpabiliser parce qu'on a supporté des mots, des situations qui sont insupportables. Ça fait pas très warrior, c'est juste pour ne pas, en plus de supporter, se sentir nul. Vaut mieux rester fier des fois où on a pu résister.
Bah oui, c'est important, mais c'est vrai qu'on bah on en parlait déjà dans le dernier épisode, en fait. Hein.
Ouais.
Quand on réagit, on culpabilise. Quand on réagit pas, on culpabilise aussi. Donc c'est vrai que c'est important de rappeler que c'est pas toujours possible, faisable, on n'a pas toujours l'inspiration, et qu'effectivement, il faut pas se sentir mal si on ne réagit pas. C'est une violence supplémentaire. En
fait. Carrément.
C'est un bon conseil, c'est super inspirant, en tout cas. Merci Agnès.
Ouais, merci Agnès. Beaucoup.
Et moi, en fait, j'ai reçu un témoignage qui m'a inspirée. Alors là, on n'est pas sur la même génération que Agnès, hein, parce que c'est Caroline, qui est une jeune femme, et quand elle était étudiante, donc elle a dû travailler dans un fast-food pendant quelques temps, comme beaucoup d'étudiantes, hein, et elle a fait, en fait, la rencontre avec un collègue. Bon, vous allez écouter son histoire.
Et je me souviens très bien, le premier jour où je suis arrivée, je l'ai tout de suite repéré. Le relou. Genre vraiment le mec qui se prend pour un tombeur et qui est insupportable. Donc on va l'appeler Eric pour pas dévoiler son identité. Eric faisait toujours des allusions à toutes les filles. Moi, il commentait toutes mes tenues, mon maquillage. Il voulait toujours me ramener chez moi en voiture alors que c'était pas nécessaire. Il faisait le frotteur dans la cuisine aussi. Donc c'est comme dans le métro. Il se frottait à nous en prétextant que la cuisine était trop étroite. Un jour, j'ai une dispute avec une collègue à moi. Donc on essaye d'être discrète, mais finalement le ton monte et tout le monde est au courant qu'on s'est disputé. Et le lendemain, on va tous sortir boire un verre après le travail. Donc tout le monde, tous mes collègues, donc surtout des hommes, quelques filles, mes managers et Eric. Et là, Eric s'approche de moi et devant tout le monde, il s'exclame « Dis donc, c'était tendu entre Lucie et toi hier. La prochaine fois, j'espère que vous ferez un combat nu dans la boue, ce serait sexy. » Et là, du tac au tac, genre, je me suis dit, c'est bon, faut que je le mette à sa place. Et je lui ai dit, écoute, Eric, je vais même pas juger tes fantasmes qui sont par ailleurs ultra clichés. Mais la prochaine fois que t'as des envies comme ça, tu vas sur des sites porno et t'arrêtes de me faire chier. Voilà. Et là, une grande partie de mes collègues qui étaient derrière moi ont commencé à m'applaudir ou à faire des, genre, des trucs un peu en mode rap battle, genre, waouh! Genre, tout le monde m'a acclamé et Eric essayait un peu de se défendre, tout, mais c'était hyper pathétique. Et le lendemain, au restaurant, je me souviens qu'il y a des gens des employés que je connaissais même pas qui sont venus me féliciter. Voilà. Et je voulais juste dire aussi que c'est vraiment important de soutenir les femmes qui tiennent tête comme ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Les hommes qui étaient derrière moi, qui m'ont applaudi, je sais que c'était aussi un peu pour se moquer de lui, qu'ils en ont un peu profité. Ils n'ont pas lancé dans une tirade féministe, mais d'avoir des applaudissements, de sentir qu'il y a des gens avec vous, bah, ça fait vraiment du bien.
Wow. Moi, j'imagine la tête du mec.
Ah ouais.
En mode là, trop penaud avec tous les collègues qui se foutent de sa
pop,
gueule.
Pop, pop.
Allez, yes. Vas-y. Ouais, moi, ça m'a rappelé en plus une histoire qui m'était arrivée au boulot. Je vous l'avais raconté les filles, mais bon, je la raconte pour tout le monde. Hein. C'était avec une collègue, en fait. Moi, je suis journaliste. On travaille dans un open space et on était avec un collègue et on regardait tous les trois une vidéo. Je sais même plus ce qu'on regardait, tu vois. Et donc, à la fin du truc, je sais pas, ça devait être un reportage qu'on avait fait ou je sais pas quoi, qu'il devait regarder pour voir si c'était bien ou pas. Et à la fin, le mec, il dit « Ah, super les filles, allez au boulot maintenant !» Et il met une claque au cul de ma collègue, quoi. Et là, il s'est passé un truc, on s'est pas concerté, on a crié toutes les deux, mais exactement au même moment « Harcèlement sexuel !» Et là, évidemment, open space, donc bon, il y avait pas grand monde autour, mais déjà, lui, alors, il commence par faire des merde. Non, mais c'était pour rire, hein. Ah bah oui, bah nous aussi, malade. C'était pour rire. C'était drôle, t'as aimé notre blague aussi ? Et oui, bah, il a plus jamais recommencé, hein.
Je vote pour qu'on mette des moufles définitives à ces mecs-là.
Ouais,
des moufles qu'ils ne peuvent plus jamais enlever de leur vie.
On peut leur coudre les doigts entre eux.
Ouais, on peut faire des choses comme ça.
Non, mais c'est pas possible. C'est pas
et du coup, voilà, moi, ce que... Enfin... de pas être tout seul, en fait, de briser l'isolement. Enfin, ce que Agnès disait tout à l'heure, c'est que finalement, en fait, elle a été toute seule au moment où elle a répliqué. C'est aussi pour ça que, voilà, c'est de se soutenir les unes les autres et les uns les autres aussi. Enfin, les mecs, si vous avez un rôle à jouer, ça peut être aussi, voilà. Ben, comme les collègues de Caroline, et ben de la soutenir et de dire que, ouais,
ça, c'est
d'être d'accord avec elle.
Mais en plus, là, visiblement, il y a répétition. Elle nous parle de comportements très variés et très répétitifs. Et là, aux yeux de la loi, c'est vraiment ce qui qualifie le harcèlement, que ce soit moral ou sexuel. C'est cet effet de répétition. Donc là, on est complètement dans un cadre en plus qui, d'un point de vue légal, pourrait être justifié. Oui. On va du coup maintenant écouter le témoignage d'Alix. Donc Alix, elle a 30 ans, elle est freelance, elle est spécialisée en communication digitale. Donc en gros, elle fait des sites internet principalement. Elle tient à expliquer avant son témoignage qu'elle est autodidacte et que du coup, elle souffre d'un gros syndrome de l'imposteur. Elle a un sentiment permanent d'illégitimité qui va expliquer pourquoi elle a failli se faire avoir par la personne dont elle va nous parler. Et elle va nous expliquer sa victoire.
Je travaillais sur le site web d'un client. Ça se passait super bien, super chouette projet, bon rapport, tout va bien. Un jour, mon client m'écrit. Il me dit « Oui, j'ai un copain, il est du métier. » Pas plus d'informations sur le copain. « Je pense que ce serait super intéressant que vous parliez. Voilà, je te donne son contact. N'hésite pas à lui proposer un rendez-vous. » Donc je m'exécute. C'est toujours intéressant. C'est toujours aussi une occasion d'apprendre. On s'appelle et là, à peine passé les salutations, j'ai un... Bon, on est d'accord, hein, ce site, il est regardable. Mais regardable. Qu'est-ce que t'as prévu du coup? Parce que là, vraiment, impubliable. Je tombe vraiment des nues. Là, je sens quand même que je commence à l'intérieur à me ratatiner, à avoir tous mes syndromes qui commencent un peu à me manger. J'essaie de maintenir le cap et de décortiquer la critique pour éventuellement en sortir quelque chose de positif. Ça reste très flou, très méprisant, très très négatif. Et puis, je ne sais toujours pas ce que fait cette personne comme métier. Hein. Je sens ma voix qui commence à trembler. Je me prenais vraiment des tartes dans la gueule, quoi. Donc, à un moment donné, il s'arrête et puis il me dit... Mademoiselle, je vous sens très très émotive, hein. Faut pas le prendre comme ça, hein, vraiment. Et là, vraiment, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, quoi. Je me suis dit, ah oui, non, mais Alix, c'est juste une énième scène de paternalisme, de sexisme et de quelqu'un qui doit se sentir vraiment pas très bien pour t'écraser comme ça. Ça ne concerne pas ton travail, c'est cette personne qui a un problème. Donc là, je me suis vraiment raccrochée à cette idée. Je le voyais vraiment, quoi. Je voyais la lumière, quoi. Et je me suis posée, j'ai pris un grand souffle et j'ai dit « Ah non, mais alors déjà, moi c'est madame et mes émotions n'ont rien à faire dans une discussion de travail. Je ne vous permets pas d'en parler, ni le lundi, ni jamais. Maintenant, je vais aller discuter de tout ça avec mon client. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère ne plus jamais avoir à vous parler. Au revoir. » Et j'ai raccroché. Oh, ouf, ça m'a fait tellement de bien. Ne pas l'avoir laissé m'écraser et avoir su lui dire « c'est pas moi qui ai un problème, c'est toi ». Vraiment, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Moi, c'est Madame.
Moi, moi, c'est Madame.
Cette punchline.
Madame, s'il vous plaît.
Elle est géniale. Et ce que je trouve très fort, c'est qu'elle arrive à se dissocier en fait de cette pluie de critiques et à se rendre compte qu'effectivement, le problème, c'est pas elle, c'est cette personne en fait qui en a un. Et moi, ça me rappelle en fait toutes les scènes de mansplaining en fait, où des hommes n'hésitent pas à t'expliquer des choses en partant du principe que tu n'es pas renseignée, quand bien même tu serais experte sur le sujet qu'ils t'expliquent. Mm-hmm. Et il y a pas mal d'exemples d'articles en ligne ou de femmes qui témoignent de ça sur Twitter. Et ça me rappelle un exemple en particulier qui m'avait beaucoup fait rire de Olivia Nuzzi, qui est une correspondante du New York Magazine, qui disait « Un jour, un homme a essayé de m'expliquer un article que j'avais écrit. » Et ça arrive tellement fréquemment. Moi, on m'a expliqué comment gonfler comment mon pneu était à plat alors que j'étais en train de le gonfler. C'était merci beaucoup pour les.
Ça c'est. Ouais,
je crois que je suis au courant. Merci.
Vraiment là, c'est
Captain Obvious, tu vois, grosse intervention.
Merci.
Et du coup là, c'est ce qui est arrivé à Alix en fait. Elle sait même pas d'où sort ce mec, quel est son statut, quel est son métier. On ne sait même pas pourquoi elle doit parler à ce gars-là.
Et il l'agresse direct.
Et il l'agresse descend complètement son projet alors qu'on ne sait pas d'où il parle en fait, quelles compétences il a pour émettre des critiques.
Non, c'est un homme, il a pas besoin de se justifier. Ah, non, voilà. Enfin, il sait tout.
C'est ça.
Évidemment.
Par défaut, il sait mieux. Donc voilà, bravo Alix.
Bravo,
parce que vraiment,
ouais,
ta punchline, en plus, moi je pense que je vais la garder.
Moi c'est madame.
Je pense qu'il y a plein de situations dans lesquelles on peut la ressortir, celle-là. Donc je la garde.
Ouais, ça peut les sécher un peu. Ouais. Mm-hmm. Après, il y a d'autres façons aussi de s'imposer. C'est la façon dont Florence s'est imposée, moi, qui m'a pas mal interpellée. Alors, Florence, elle est tatoueuse. Et en fait, moi, je connaissais pas forcément le milieu. Voilà, le tatouage, j'ai l'impression que c'est cool et tout. Et en fait, c'est un milieu très, très masculin et très, 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 très machiste. Et voilà, donc au moment où elle a commencé son apprentissage, elle a dû se confronter à son maître, à la personne qui l'enseignait, qui était tatoueur et qui lui en a fait voir, mais de toutes les couleurs.
Les une ou deux fois par semaine où je venais dans la boutique, je devais me conformer à une règle simple, mais que je trouve totalement aberrante. Je n'avais pas le droit de porter autre chose que des pantalons et des t-shirts à manches longues. Clairement, il me l'avait dit, tu vas être face à des hommes, et les hommes, ils ont des envies, ils ont des besoins, ils ont des pulsions, et nous, on veut pas de problème avec ça, avec une femme qui tenterait les clients. Quelques mois plus tard, je suis allée me faire tatouer chez quelqu'un d'autre. Le tatoueur qui m'apprenait m'a fait une crise de jalousie. J'avais le droit de me faire tatouer que par lui. Donc il m'a foutu dehors. Puis le tatoueur justement chez qui je suis allée me faire tatouer et pour lequel il m'a fait une crise de jalousie s'intéressait aussi à ce que je faisais. Donc je lui ai proposé mon travail, je lui ai demandé s'il pouvait m'apprendre. Et alors lui, il m'a répondu quelque chose d'absolument aberrant. Il m'a dit « Je ne prends pas de femmes dans ma boutique parce que cela représente une tentation charnelle pour les clients et pour les collègues. » Là, pour le coup, effectivement, j'ai rien dit, je suis partie. Finalement, moi, à force de m'entraîner, de bosser, j'ai eu ma revanche. J'ai ouvert ma propre boutique, toute seule, voilà, sans l'aide de personne. Aujourd'hui, moi, les tatoueurs, bon, je m'en fiche complètement, en fait, de leur travail. J'ai eu ma revanche, j'ai ma clientèle, je bosse bien, mon travail plaît. J'ai des clientes adorables, c'est un métier très difficile. Mais il faut se battre contre les stéréotypes, il faut se battre pour montrer que nous aussi, on a notre place dans ce métier, qu'on n'a pas à se faire écraser par les hommes et qu'ils n'auront pas le monopole du métier.
Yes. Voilà.
Bravo Florence.
Et deuxième ironie de l'histoire, que évidemment ces deux tatoueurs s'ils sont horribles avec une apprentie tatoueuse, forcément ils sont horribles avec les clientes aussi, c'est-à-dire qu'ils commentent leur physique. Mmh. Non mais tes vergetures, non mais je peux pas travailler là-dessus. Enfin voilà, horrible. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle les retrouve dans sa boutique.
Ah bah oui.
Donc voilà, elle en fait, elle se retrouve avec des femmes dégoûtées de ces mecs-là qui viennent chez elle. Donc elle, ça marche bien. Et eux, ils sont trop cons en fait, parce qu'apparemment
ils perdent des clients.
Ils perdent des clientes, mais ils se remettent évidemment pas du tout en question.
Pourquoi
voilà.
Faire
hein.
C'est une perte de temps, la remise en question. Enfin bon.
Donc voilà, double victoire pour Florence. Et moi, je pense que c'est cool qu'on ait des tatoueuses qui arrivent à s'imposer pour que nous aussi, les nanas, on puisse aussi aller tranquillement se faire tatouer sans craindre de se faire aussi juger sur notre physique.
Il y en a de plus en plus, et c'est vrai que moi qui suis tatouée, c'est un moment quand même d'intimité en plus que tu passes avec la personne. Donc aller chez une tatoueuse femme, déjà, c'est un peu comme aller chez une gynéco femme, tu vois. Le moment passe.
Ouais, c'est autre chose.
C'est autre chose. Ouais.
Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce qui m'a inspiré beaucoup chez Florence et qui me manque à moi parfois, des fois, je l'avoue, c'est la confiance en elle qu'elle a eue, quoi. Ouais. Pour malgré ces deux types-là, se dire non, je persévère, je continue et peu importe. Et elle a cru en son talent, quoi.
Elle a suivi sa passion, ouais. Et elle s'est pas laissée décourager, ouais.
Et ça, je pense que c'est une leçon pour nous toutes.
C'est une belle victoire.
Oui, carrément.
Une super warrior, encore une fois. Cette fois, c'est Mireille, du coup, qui va nous raconter son histoire. Mireille, elle a 60 ans. C'est l'épisode qu'elle va nous raconter, c'est passé il y a une quinzaine d'années. Elle était responsable des ressources humaines dans une société de services informatiques. Et donc, à ce titre, elle s'occupait du recrutement. Et donc là, elle va nous expliquer ce qui se passait lors d'une réunion de la direction.
À l'occasion du comité de direction, composé exclusivement d'hommes, je venais faire un point sur les recrutements du mois. Et à chaque fois que je recrutais une femme, j'avais droit à « alors, quel est son profil ?» Je commençais à expliquer le profil comme je faisais d'habitude, et il me coupait en me disant « mais non, tu sais bien le profil en dessinant un profil féminin avec leurs mains. » Donc c'était vraiment quelque chose qui m'agaçait prodigieusement, d'autant plus que c'était systématique. Un jour, lors d'un des comités de direction, je commence à présenter les recrutements du mois. Et je dis « bon, on a recruté machin, donc il sort de telle école, il a telle compétence. » Et ce qui ne gâte rien, il a un beau petit cul. Tout le monde se retourne, l'air effaré, choqué. Enfin, Mireille, ça va pas, pourquoi tu dis ça ? Ce à quoi je leur réponds, je sais pas, le mois dernier, quand on a recruté Machine, vous me demandez quel est son profil physique, donc je pensais que ça vous intéressait, donc j'ajoute ça à la présentation. À l'issue de cette anecdote, on a discuté. J'ai essayé de leur faire comprendre à quel point ce type d'attitude pouvait être effectivement lourd, choquant. Lorsque eux le faisaient, ça ne leur posait aucun problème. Par contre, quand moi je m'y suis mise, tout d'un coup ça devenait choquant parce que cette fois-ci on parlait, c'était une femme qui parlait et non pas au sujet d'autres femmes mais au sujet d'hommes. J'étais assez fière de mon petit effet et puis surtout derrière ils m'ont foutu la paix avec ça. Donc je suis assez contente de moi sur ce coup.
Petit effet, non, super effet, Mireille,
belle
bravo.
Victoire.
Super, génial.
Mais oui. Bon, déjà, on passe sur le fait qu'au comité de direction, évidemment, il n'y a que des hommes.
Voilà.
Bon, ça, c'est, on n'en parle même pas parce que tellement ça semble logique. Et donc, ce que je trouve génial, c'est d'inverser comme ça, d'inverser les rôles.
Ouais, ça marche très bien l'inversion.
Et effectivement, ouais. Là, d'un coup, ça devient très choquant. Alors que de l'autre côté, ça faisait des mois qu'il faisait ce genre de réflexion au sujet de chaque femme qui a été recrutée. Donc, c'est vraiment un procédé qui est hyper efficace, une méthode que je recommande pour arriver à faire ouvrir les yeux à des hommes qui font des réflexions sexistes. L'inversion des rôles, ça marche très très bien.
Moi, ça me rappelle aussi un autre témoignage qu'on a reçu, qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de passer, mais de Margot, en fait, qui, elle, bosse dans une boîte, et au moment, il a été question d'un recrutement. Et en fait, forcément, il y a plein de femmes compétentes, évidemment, dans le service, mais le chef veut faire un recrutement externe, parce qu'il veut recruter un homme, évidemment. Et en fait, ce qui est génial, c'est Margot nous a raconté qu'elle avait été outrée par ce truc-là, en disant, mais non, mais pourtant, on a Bidule, qui est une femme qui est super compétente et qui pourrait faire l'affaire. Et là, en fait, juste avant il y a deux jours, là, juste avant l'enregistrement, j'ai reçu un petit message de Margot qui dit que le fait qu'elle ait mis en avant sa collègue féminine qui était compétente, ça a fait changer d'avis à son patron qui, du coup, va considérer cette candidature. Et du coup, ça va peut-être être faire une femme pour monter en grade dans son entreprise. Et ça, je pense que ce qui est important aussi quand on est en entreprise et en position de faire changer un peu les choses, c'est de mettre en avant les candidatures féminines, les candidatures des collègues.
Pour les postes de direction.
Voilà, pour les postes de direction, les postes de management. Et ça marche. Et là, on espère qu'elle sera recrutée, la collègue de Margot. En tout cas, on lui souhaite tout plein de chance pour ses entretiens. Et bravo, en tout cas, à toi de l'avoir mise en avant. C'est super. Mm-hmm. Sororité.
Ouais, super. Moi, c'est vrai que j'ai travaillé 3 ans en agence de pub et que je me souviens très très bien que chaque fois qu'il y avait un entretien, juste un entretien avec une fille, notamment pour des postes de stagiaire, toute la boîte, il y avait 200 personnes, tous les mecs de la boîte étaient en ébullition, en mode « Attends, il y a un entretien aujourd'hui, genre il faut qu'on guette la fille quand elle arrive et si elle est bien foutue, alors là, on va aller faire du lobbying pour qu'on la recrute, mais direct, quoi. » Et c'était tout le temps, les conversations tournaient toujours autour de « t'as vu la nouvelle stagiaire, t'as vu la nouvelle machin ?» Et c'est vrai que c'est insupportable. Il faut vraiment arrêter de faire ça, quoi. C'est pas possible. Et ça, en plus, c'est souvent des filles qui sont jeunes. C'est leur début de carrière. Et vous les mettez tout de suite dans une position de proie. De proie sexuelle pour tous ces vieux mecs dégueulasses là qui fantasment sur des meufs de 20 ans. Mais déjà, calmez-vous, quoi. C'est vous rendez pas compte à quel point la fille, elle est vulnérable. Et vous la mettez dans une position, mais elle est complètement animalisée. Enfin, c'est de la viande, quoi. C'est pas possible de faire ça, quoi.
Il y a énormément d'hommes qui, en fait, même au travail, quand il s'agit uniquement de compétences, se placent systématiquement dans une situation, dans une relation sexualisée.
Tout de suite.
En fait, avec les femmes. Et moi, du coup, sur Paye ton taf, qui est un autre projet que je tiens en parallèle de Paye ta schneck, je reçois beaucoup de témoignages en ce sens. Effectivement, les stagiaires, je crois que c'est le plus gros des témoignages que je reçois, c'est les témoignages de stagiaires, des réflexions qu'elles entendent, ou de gens effectivement comme toi qui entendaient les réflexions au sujet des stagiaires. Et un autre truc qui est hyper récurrent sur ce côté sexualisation, c'est la culture du viol. Il y a une facilité en entreprise à balancer des blagues sur le viol
tout le temps
et à menacer de viol pour du lol.
C'est tellement drôle, le viol.
Mais dans le plus grand des calmes, et effectivement, quand tu t'énerves, c'est toi, t'es hystérique, t'es féministe de service.
On peut même pas faire des blagues sur le viol. Non, mais ça va, quoi.
Je me rappelle,
on peut plus rien dire.
Une femme avait témoigné à la défense, un de ses collègues dans l'ascenseur lui dit: tu sais que si je te viole, là, personne ne le saura jamais. Puis t'es au travail, t'arrives au travail, bonjour, bonne journée.
Ça s'appelle une menace, ça. Tu peux aller en prison pour ça. Enfin, faut quand même se calmer, quoi.
Complètement. Et il y a une facilité autour de ça, enfin, autour de tous les sujets sexués, on va dire, relatifs aux femmes. Il y a une espèce de lâchage général.
Ouais.
Et je pense que c'est hyper important, justement, les warriors qu'on met en avant, elles posent les limites. Et c'est hyper important, non seulement pour elles, mais aussi pour toutes les autres, en fait. Parce qu'à un moment, ces comportements-là ne devraient plus avoir leur place en entreprise.
Et moi, je rêve.
Ou que ce soit, en fait.
Je rêve du jour où ce sera plus du tout cool, en fait, de faire ce genre de réflexion. Et que si un mec le fait, tout le monde va le regarder, genre, ah, mais t'es vraiment ignoble, quoi. Genre,
mais ça,
casse-toi,
ça
quoi.
Peut changer dès aujourd'hui, en fait.
Genre,
déjà, on a les warriors qui réagissent, mais il faut aussi que les mecs qui nous écoutent, toi,
allô,
monsieur, coucou.
Alors,
mission pour toi, si t'as envie de nous aider, et ben juste dénonce tes collègues. Enfin, genre, quand ils ont des réactions comme ça, tu leur dis non, c'est pas possible, tu peux pas dire ça.
Voilà, et au minimum, tu ne laisses pas faire. Si tu dénonces pas, en tout cas, tu ne laisses pas faire.
Voilà, on ne demande pas non plus. Mais juste leur faire la remarque que ça se fait pas et que toi, ça te fait pas rire non plus, ça va changer les choses.
Des hommes qui rigolent depuis 15 ans aux mêmes blagues. C'est moi, j'ai des potes là, j'ai réagi il y a peu de temps à un pote qui me faisait la même blague depuis 10 ans, la même blague sexiste. J'ai peut-être rigolé il y a 10 ans, mais je vois pas comment tu fais pour rire 10 années d'affilée à la même blague. Enfin, je sais pas, ça me paraît fatigant. Non donc effectivement, maintenant, à tout le monde aussi de dire stop. C'est pas drôle.
On change de blague. 2.0 s'il vous plaît, on est en 2018. Merci. Du coup, maintenant, on va écouter le dernier témoignage de Alice Startup Nation, qui va nous parler. En fait, elle nous a fait un peu un tutoriel des étapes vraiment à suivre. Donc, écoutez bien, parce que après, on va un peu débriefer. Mais en gros, tout ce qu'elle a fait, c'est vraiment un très bon exemple de ce qu'il faut faire.
Bonjour, je m'appelle Alice. Je travaille dans les nouvelles technologies à Londres. Mais ça a été mon premier emploi. J'ai été embauchée comme stagiaire en études de marché. Et c'était dans une boîte suédoise. Et mes premières semaines se sont super bien passées. Le seul petit hic qu'il y avait, c'était mon manager. En fait, je l'ai surpris plusieurs fois à regarder mes fesses ou ma poitrine. Il faisait souvent des commentaires sur notre physique ou notre façon de nous habiller. Faisait des commentaires donc sur les filles qui étaient sur Tinder, du genre oh, celle-là elle est grosse, celle-là elle est dégueulasse, celle-là elle est bonne, enfin bon, voilà. Une fois en fait, j'étais allée sous ma table de bureau pour brancher une lampe, et en fait, il a commencé à faire une blague avec les autres mecs sur le fait que je passais sous la table, donc je sais pas si vous voyez le genre. Et je pense qu'en fait, on lui a dit plusieurs fois qu'il allait trop loin, que ce qu'il disait, c'était inapproprié. Et en fait, lui, il utilisait toujours l'excuse du fait qu'il avait deux filles et que comme il était père, il n'était pas pervers. Et en fait, pendant mes 4 mois de stage, j'ai commencé à répertorier tout ce qu'il m'avait dit ou tout ce qu'il avait fait d'inapproprié avec la date exacte des faits. Et en fait, moi, je me suis dit que ce genre de comportement, c'était inacceptable et que de toute façon, j'avais pas envie de bosser dans un environnement comme ça et de devoir accepter le comportement sexiste d'un mec. et que c'était pas à moi de partir de ce travail si son comportement ne me convenait pas. Donc au final, quand j'ai été engagée en CDI dans cette boîte et en discutant avec certaines de mes collègues, on a décidé d'agir et on a profité d'un déplacement de deux de mes collègues en Suède, donc là où sont les bureaux principaux de la boîte. Elles ont rencontré le vice-président, elles lui ont montré mon témoignage en quelque sorte. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le vice-président est carrément venu à Londres. Il a collé un avertissement au manager en question avec tolérance zéro, c'est-à-dire qu'il lui a dit que si jamais il entendait quoi que ce soit sur son comportement, il se faisait virer. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est devenu quand même assez lourd au bureau. Tout le monde était un peu mal à l'aise et puis ben, tout le monde a arrêté de lui parler aussi parce que les gens ont été mis au courant de son avertissement. Et il a fini par démissionner tellement c'était insoutenable pour lui en fait d'être dans ce genre d'environnement où personne ne voulait lui parler.
Alice, bon déjà bravo parce ouais. que t'as vraiment obtenu gain de cause.
Tout bah, oui non carrément parce que non, je suis étonnée parce que moi je l'avais entendu avant un peu le témoignage et à la fin elle raconte aussi comment elles ont fêté ça entre collègues. Bon, elles ont bu un coup, elles ont fait un apéro festif au moment où il a démissionné et ça je trouve ça cool aussi.
Ouais, ouais.
Célébrer les victoires par un apéro c'est toujours
dehors c'est toujours... le
port. Voilà c'est ça.
Ce qui est très important dans son témoignage c'est qu'en fait elle a eu un très bon réflexe, c'est de répertorier tous les actes, toutes les situations qui se sont passées, toutes les réflexions qu'il a fait, en étant très précise avec donc les jours, les heures, etc. Et ça, d'un point de vue juridique, en tout cas en France, c'est très très important parce que ça fait partie des preuves. Et en fait, donc voilà, ce qu'on estime, enfin ce que la loi estime être un comportement de harcèlement, c'est donc un comportement répété qui entraîne une dégradation des conditions de travail pour la personne qui en est victime. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, bah, il faut prouver. Donc il faut par exemple récolter des témoignages, mais aussi, comme elle a fait, donc noter tout ce qui se passe, événement après événement.
Avec la date, l'heure, etc.
Avec la date.
Et tu fais ça genre sur un petit carnet ou comme tu veux, quoi.
Alors, ce qui est important aussi, c'est d'en parler aux bonnes personnes. Donc les bonnes personnes, ça peut être un médecin du travail, ça peut être l'inspecteur du travail, ça peut être son employeur, alors ça dépend de la relation de confiance qu'on a ou pas avec,
bah,
ça peut
chaud,
être les
ouais.
RH. Si c'est trop difficile, on peut écrire. C'est un peu ce qu'elle a fait au début, hein, en ayant l'intuition que ça allait servir à quelque chose plus tard. Après, souvent, il y a des preuves, par exemple, des mails, des textos, faire des captures d'écran, etc., enregistrer tout ça. Pour vous dire un peu ce qui est le plus souvent utilisé comme preuve matérielle dans ce genre de cas, ça va être donc effectivement ce qu'elle a fait, Alice, donc le relevé des faits précis avec les dates, les mots, les gestes et tout ça. Ça peut être sur un carnet. Ça peut être aussi les mails, comme je disais, des post-it déposés sur son bureau, des documents à noter, mais aussi des documents qui montrent une différence de traitement, une baisse des responsabilités ou ce genre de choses. Par exemple, ça peut être quelqu'un, un mec qui veut vous punir entre guillemets parce que vous avez refusé ses avances ou ce genre de choses et qui du coup vous met au placard. Ouais. En gros, vous donne plus rien à faire ou ce genre de choses. Ça aussi, ça peut constituer des preuves. Donc c'est super important de le savoir. Il faut savoir aussi qu'on peut porter plainte dans un délai de 6 ans après le dernier fait de harcèlement.
Donc même genre si on a quitté la boîte...
Tout à fait.
D'accord.
Pour ça, bah, faut aller dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Après, on vous conseille quand même d'abord d'en parler à un avocat, c'est toujours mieux. Il y a aussi des associations, mais qui sont clairement débordées.
Il y a la VFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail. Effectivement, depuis MeToo est débordée d'appels, en fait, qui a dû fermer sa ligne téléphonique faute de moyens, puisque cette association,
c'est
malheureusement, n'est pas suffisamment aidée et subventionnée par le gouvernement actuel.
Donc, si le gouvernement ne sait pas quoi faire de son argent, ben...
Voilà, si Marine Schiappa nous entend, sachez
plutôt
que...
Plutôt que de payer Raphaël Antoven pour faire des interventions
Merci.
Bizarres.
Merci, je n'osais pas le dire. Mais voilà, elles sont 5 juristes, en fait, et elles accompagnent les victimes vraiment de A à Z dans leur démarche. Une fois qu'elles ont décidé d'entamer une démarche judiciaire. Et du coup, elles font un travail gigantesque, vraiment colossal. Et à l'heure actuelle, elles ne peuvent plus accepter de nouvelles affaires. Donc c'est
super dommage.
C'est une information, non information. Mais si vous avez envie de les soutenir, en tout cas, n'hésitez pas.
Après, je pense que vous pouvez vous rapprocher. Alors, ça dépend des boîtes et ça dépend des relations aussi, mais des syndicats aussi. Mmh. Alors, ça, c'est toujours pareil. Hein. Parce qu'il y a des syndicats qui sont plus ou moins informés, plus ou moins safe, hein, plus ou moins.
On a déjà vu des cas où des syndicats ont protégé les harceleurs.
Aussi. Voilà, exactement. Donc, voilà. Si... Après, ça peut être, voilà, en fonction de la boîte dans laquelle on est, ça peut être une première étape aussi.
En tout cas, c'est comme ce dont on parlait sur le harcèlement dans l'espace public, essayer de sortir de son isolement. Donc, effectivement, il faut se trouver des complices. Il faut trouver quelqu'un qui puisse. C'est pas évident. Hein. Il y a des boîtes dans lesquelles peut-être personne ne voudra vous entendre. Mais si jamais il y a quelqu'un avec qui vous avez une affinité particulière ou quelqu'un que vous sentez un petit peu sensible, un petit peu empathique ou bienveillant, n'hésitez pas à essayer de vous trouver des alliés. Mm-hmm. Et, parce que quand on est plus seul, on est beaucoup plus fort aussi.
Et surtout que des fois, juste en parlant, on se rend compte qu'on n'est pas la seule à subir ça et à ce que ça nous gêne. Ça peut être des choses toutes simples. Hein. Ça peut être juste partager sur la façon dont un collègue parle voilà, avec des petits mots, genre ma petite princesse, machin.
C'est justement un outil aussi qui aide vachement de récolter d'autres témoignages, d'autres personnes qui subissent ces comportements.
Et même de savoir qu'on est plusieurs aussi des fois à pas supporter la façon dont ils parlent ou la façon dont ils se comportent. Bah, ça peut aussi aider à des fois tout simplement aller à plusieurs voir la personne aussi. Oui. Enfin tout simplement aller lui dire non mais arrête de te comporter comme ça.
Et puis pas avoir l'impression d'être la source du problème parce qu'on le sait, on a tendance à se dire qu'on a dû faire quelque chose qui a provoqué ce comportement, même si c'est absolument pas le cas. Donc le fait d'être plusieurs, ça aide aussi moralement à se déculpabiliser.
Ouais, donc vive les papotages autour de la machine à café ou pendant la pause clope, peu importe, mais voilà, partagez entre vous les expériences, c'est super important, ouais.
Totalement.
C'est à moi. On a décidé de lancer une nouvelle rubrique dans cet épisode 2. Alors, on va peut-être pas faire une nouvelle rubrique à chaque épisode, parce que sinon, à la fin, à l'épisode 100, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, c'est la warrior du mois. C'est en fait une nana qui nous a inspirés dans le mois, dont l'histoire a apparu soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Et moi, ce mois-ci, celle qui m'a inspirée, c'est Laura. Vous avez peut-être entendu son histoire. Elle, en fait, elle habite à Toulouse et le soir d'Halloween, elle a subi une agression sexiste et homophobe, parce que c'est toujours pareil, lesbophobe, voilà, c'est-à-dire que les agressions se superposent les unes aux autres. Et elle rentrait donc chez elle, elle avait loupé le dernier métro, elle rentre chez elle et elle tombe sur une banque de mecs, enfin trois mecs qui commencent à l'insulter et finissent par lui mettre un coup de batte dans la figure. Donc c'est hyper 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 violent et
plusieurs coups d'ailleurs
ils commencent à la tabasser et là Laura ce qu'elle a réussi à faire c'est qu'elle a réussi à se relever et à rendre les coups et moi je trouve ça super enfin déjà d'avoir eu la force de faire ça d'avoir eu le courage de se faire de s'attaquer à trois mecs comme ça c'est moi je trouve ça super impressionnant et aussi autre chose c'est que dans beaucoup dans les médias ce qu'on a vu beaucoup dans les journaux on a entendu parler de cette histoire mais on a finalement assez peu entendu le fait qu'elle a répliqué en fait et moi en fait le moment où j'ai entendu pour la première fois son histoire en fait j'allais au boulot il était 5h30 du matin il pleuvait et j'entends son histoire et je me suis dit non mais c'est déprimant encore une meuf qui s'est fait tabasser parce que c'est une femme et parce qu'elle est lesbienne et là elle a dit une phrase mais que j'ai tellement adorée elle me dit j'ai réussi à m'enfuir en ayant mis deux mecs par terre.
Génial.
Et là je me dis ouais ça m'a inspirée je me dis c'est génial quoi c'est et
en plus misandre toi sur
misandre misandre ça voudrait dire que je n'aime pas les hommes
mais non tu ne peux pas ne pas aimer les hommes tu as un ami homme
ben oui voilà j'ai un ami homme voilà tu peux pas dire que
j'ai déjà parlé à un homme dans ma vie
et exactement
c'est vraiment donc c'est une warrior infinie parce que déjà pour la résistance physique qu'elle a donnée sur le sur le coup
mais c'est incroyable
mais en plus elle a témoigné elle-même en fait elle a publier son récit sur Facebook pour qu'un maximum de personnes le lisent pour que tout le monde sache ce qui lui est arrivé et ça c'est encore une énième preuve de courage que de témoigner publiquement pour raconter ce genre d'épisode.
Exactement et aussi voilà elle a été portée plainte évidemment. Non. On dit évidemment alors que non, pas évidemment, si parce que des fois on est mal reçu. Mais bon, là pour le coup, elle est allée porter plainte dans un commissariat à Toulouse. En tout cas, moi je lui souhaite tout le courage
pour un bon rétablissement déjà. Bon rétablissement. Parce qu'elle a eu des séquelles quand même.
Exactement, 4 jours d'ITT d'incapacité totale de travail.
Et puis on la félicite.
Bravo, et voilà, vraiment de tout cœur avec toi pour la suite. Et
bravo
on
Laura.
Que, voilà, que tu arriveras à aller jusqu'au bout de la procédure en un seul morceau. Et avec,
j'espère qu'ils vont garder des traces des coups. Que tu leur as mis.
Ouais. Ils doivent s'en souvenir, je pense, ouais.
Et ben, du coup, on va passer aussi à la rubrique self-care. Hein, donc,
la toutoune. partout. La rubrique
si on l'avait déjà fait la dernière
fois. La rubrique qui fait du bien.
Donc, en gros, aujourd'hui, moi, je voudrais vous inciter, en fait, à ne plus vous excuser. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais il faut savoir qu'il y a des recherches qui montrent que les femmes s'excusent beaucoup plus que les hommes, mais genre vraiment, vraiment beaucoup plus. Il y a un syndrome de « je m'excuse tout le temps, chaque seconde ».
Pardon, désolé. Excuse-moi, pardon.
Et je voulais pas. Donc, il faut savoir aussi qu'évidemment, il y a un écart énorme de confiance en soi entre les hommes et les femmes, hein, lié au patriarcat, qui se traduit souvent par le fait que les femmes vont prendre la responsabilité pour des situations dont elles sont même pas responsables. Et à l'inverse, elles vont accorder du crédit aux autres pour leur propre réussite. Donc ça, c'est un peu des phénomènes qu'on observe souvent, qui ont fait l'objet de recherches sérieuses et tout ça. C'est pas moi qui invente ça.
Oui, bonjour, j'étudie sur les excuses.
Donc, moi, je dis aujourd'hui, on arrête de s'excuser. Ça, c'est vraiment du self-care. Moi, je l'ai testé. Je peux vous dire que ça marche. Alors, pourquoi ? Pourquoi il faut pas s'excuser ? Là, je parle vraiment dans le cadre du travail, mais aussi en dehors du cadre du travail. Mais aujourd'hui, on est concentré quand même sur le travail. Donc, parce que déjà, quelqu'un qui s'excuse tout le temps n'apparaît pas comme quelqu'un qui est responsable et qui sait ce qu'il fait. Ça donne vraiment l'impression que vous savez pas ce que vous faites, en fait. Et vous êtes tout le temps en train de vous justifier, de dire « Ah merde, je me suis trompée, désolé. » Et en plus de ça, faut savoir que s'excuser souvent va pas régler le problème, en fait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre des actes qui peuvent régler la situation plutôt que s'excuser. Donc je vous propose de faire un exercice qui, comme je vous dis, moi je me suis appliqué à moi-même et ça a vraiment eu des résultats clairement efficace. Donc, quand vous avez les mots « désolé » ou « je m'excuse » au bout des lèvres ou au bout du clavier, faites une pause, demandez-vous si vous avez vraiment fait quelque chose de mal et essayez de reformuler. Par exemple, quand on va dire, souvent on dit « Ah, désolé, c'est vraiment bête comme question, je vais vraiment poser une question bête. »
Non, je suis trop déjà, bête.
Dites pas ça. Dites « j'ai une question » et posez votre question, tout simplement. Quand vous allez dire « Ah, désolé pour le retard si vous rendez quelque chose en retard », bon, déjà, demandez-vous « Est-ce que vous êtes vraiment en retard ?» ou un petit peu en retard. Si vous êtes un petit peu en retard, c'est bon, c'est pas la fin du monde. À moins qu'il y ait des conséquences très très graves, mais en
général. Genre si tu bosses dans le nucléaire, par exemple.
Voilà, alors, par exemple.
Ah, oups. T'es pilote d'avion.
Mais si vous avez manqué un rendez-vous, que vous avez vraiment fait quelque chose de pas bien, entre guillemets, ou qui peut avoir des conséquences professionnelles pas cool, vous pouvez aussi donner une explication simple et rationnelle de pourquoi vous n'avez pas pu faire ce que vous deviez faire, par exemple, mais toujours sans s'excuser, en fait. Et terminer par « j'espère que vous comprendrez ». Voilà. En fait, c'est juste le fait de dire « désolé » ou « je m'excuse ». Malheureusement, on est un peu dans un monde de domination et ça donne l'impression que vous êtes faible. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes faible en réalité, mais c'est l'impression que ça donne aux gens. Donc, si vous voulez vous excuser, assurez-vous que vous avez vraiment fait quelque chose de grave qui affecte quelqu'un, j'ai envie de dire, même émotionnellement, en fait, même pas dans le travail.
Bah ouais, j'ai compris que je m'excusais trop le jour où je me suis excusée auprès d'une porte.
Voilà. Voilà un très bon exemple.
Porte, je me suis pris une porte et j'ai dit pardon. Et là, je me suis dit, ça va trop loin.
C'est typique. Les femmes, il y a aussi des hommes à qui ça arrive, qui ont le syndrome de toujours s'excuser, mais souvent c'est quand même plus des femmes. Et ça en arrive là, quoi. On s'excuse tout le temps pour tout.
Ouais, c'est vrai, parce que moi, c'est le réflexe que j'ai aussi des fois dans le travail quand je rends quelque chose, un reportage ou quoi que ce soit. J'ai toujours envie de dire oui, non, mais attends, je suis désolée, c'est pas super terrible, mais tu vas voir. Enfin, de commencer tout de suite par m'excuser ou par déjà justifier le fait que le travail n'est pas à la hauteur de ce que j'imagine être les attentes. Et on en avait déjà parlé, Elsa, de ce truc de s'excuser ou pas, et c'était juste avant que je fasse pour la première fois un boulot, en fait. Enfin, comme je suis en freelance, je travaille pour pas mal d'employeurs, et c'était la première fois que je travaillais donc pour une rédaction à Marseille. Et donc, je devais faire un reportage filmé, je tenais la caméra. Ça se passe super bien avec la journaliste qui m'accompagne, on s'entend bien, tout se passe bien, c'est super. Et là, donc, à la fin de la journée, moi, je suis pas super contente de moi, évidemment. Je me dis, oh non, j'ai fait des images de merde, c'est moche. Elle va me rappeler, elle va me dire que c'est nul. Et évidemment, non, la meuf, elle me rappelle en me disant, elle m'envoie un texto en me disant, ah bon, c'était sympa aujourd'hui, j'ai bien aimé travailler avec toi, écoute, à bientôt, je te rappelle, peut-être qu'il y aura d'autres possibilités. Et moi, premier réflexe, je commence à écrire le message en disant, oui, alors, mais tu vas voir, je suis désolée pour les images, tu vois, j'ai pas fait aussi bien que blablabla. Et là, je me dis, non, top. Elsa m'a dit, ne me plus jamais m'excuser. Donc, j'ai effacé le message et j'ai envoyé « Oui, c'était super, moi aussi j'ai beaucoup aimé la journée, j'espère qu'on aura l'occasion de recollaborer, à bientôt, point !»
Et est-ce que tu t'es fait virer ?
Je me suis pas fait virer, au contraire, je suis retournée donc bosser pour eux une deuxième fois. Et j'ai même eu des compliments sur mes images que je trouvais complètement nulles. Voilà.
Bah écoutez, essayez, moi je vous dis essayez, vous verrez, on vous prendra plus au sérieux et surtout vous, ça vous donnera un boost en fait de confiance en vous.
Exactement.
Total. Bah du coup, on n'est pas désolé, mais c'est la fin de l'épisode.
Tu t'excuses pas ?
Non, je m'excuse absolument pas parce que c'est comme ça, ça peut pas durer 4 heures. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère en tout cas que ça t'a donné la pêche parce que des fois on oublie de te tutoyer, mais à la base on avait dit qu'on te tutoierait.
Mais
on en profite pour t'informer que le 25 novembre, on va enregistrer un épisode hors série et en direct de la Podcast Factory à Marseille. On recevra 3 podcasteuses dont on est fan. Jennifer qui a créé le podcast Miroir Miroir,
vas-y,
qu'on adore.
Écoute-le.
Douce du podcast Extimité qui fournit de véritables moments de plaisir auditif, et Anouk dont on ne pourra pas citer tous les podcasts parce qu'elle en fait beaucoup trop.
Ouais, elle est je sais pas comment elle fait là.
Elle est hyper productive.
Elle est super productive. La reine du podcast, notre modèle à toutes.
Donc on remercie évidemment Alix, Mireille, Florence, Alice, Agnès et Caroline d'avoir témoigné. On vous félicite toutes les 6 pour votre courage et vos super réactions et pour avoir eu envie de partager toute cette inspiration avec nous. Le mois prochain, on parlera de sexisme en famille. Donc comment tu as rembarré tonton Robert et sa énième réflexion sexiste.
Derk.
Comment tu as réussi à sécher poliment beau papa et ses allusions bien crades. Ou comment tu as obtenu du soutien contre toute attente de cousin machin. Tu peux donc d'ores et déjà nous envoyer ton témoignage de glorieuse victoire à warriors@yespodcast.fr, yes avec 3 S.
N'oublie pas le 3e S.
Très
sinon
important.
Sinon ça n'arrive pas.
On remercie, comme toujours, la Podcast Factory qui nous reçoit et qui nous accompagne, donc Julien. On remercie surtout Amida, notre super réalisatrice qui est juste en face de moi.
Et
merci beaucoup,
supporte.
Amida. Et qui nous supporte, surtout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi, à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, @yespodcast avec toujours 3 S. Tu peux désormais nous écouter sur toutes les plateformes, de iTunes à Spotify, en passant par Podcast Addict et toutes les bonnes applications de podcast. Tu peux aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes.
Ouais, on attend tes recommandations parce que c'est pas qu'on est en manque d'inspiration. Hein,
on a plein d'idées, bon, vous en avez peut-être plein aussi et on aimerait bien les avoir.
On te dit donc à la prochaine.
Ouais,
et d'ici
ciao.
Là, n'oublie pas,
t'es la meilleure.
T'es pas du tout désolée. Tu ne t'excuses pas.
Non,
parce que t'es une tueuse.
Tu résistes. Gloire à toi. Bref, meuf, t'es une warrior.
Ouais, yes.